Que le nom du Seigneur soit béni pour ces moments. J'espère que vous êtes heureux d'être dans la présence de notre Dieu, que nous puissions partager la parole ensemble. Alors, est-ce que vous aimez toutes les histoires de la Bible? Vous êtes obligé de dire oui, puisqu'elles sont toutes dans la Bible. Mais il y a des histoires qui sont plus difficiles que d'autres. Vous êtes d'accord? Il y a des histoires qui sont pas joyeuses même, certaines fois. Mais rien que l'histoire de la croix, quand on y réfléchit, c'est pas quelque chose de joyeux. Si on s'arrête à la croix, et si on va plus loin, qu'on voit que le Seigneur est ressuscité, qu'il est maintenant dans le ciel, dans son trône, eh bien là, on est réjoui. Mais si on s'arrête à la croix, c'est sûr, c'est difficile. Les souffrances, le sang, les blessures, les clous, etc., tout ça, c'est dur. Et je pensais à ce verset que j'avais pas marqué dans mes notes, mais je pensais vraiment à ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, et le verset 6, qui nous parle justement de plusieurs histoires qui concernent le peuple d'Israël, qui a vécu des mauvaises situations, et on est appelé à retirer un enseignement de ces situations. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit tout de suite. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites. Pourquoi faire ? Pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Et ce verset, donc on a lu, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour qu'on en retire de l'instruction, et attention, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. D'accord? Et que si ces histoires sont marquées dans la Bible, ces histoires difficiles, elles sont là pour que nous qui sommes peut-être debout aujourd'hui, nous ne fassions pas comme ces personnes qui se sont, à un moment donné, cassées la figure, excusez-moi du terme, et spirituellement parlant, alors qu'il y avait un bon état d'esprit, il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ont dévié totalement. Et cela nous amène à ce passage que je voudrais lire dans l'avant-dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'épître de Jude. Et au verset 11, il n'y a qu'un chapitre, donc je ne vous dis pas le chapitre. Il est question de trois histoires différentes qui nous montrent trois mauvaises histoires même. Trois personnes qui ont bien commencé mais qui ont mal fini. Et qui doivent, cet après-midi, servir à notre instruction pour que nous ne puissions pas tomber comme ces personnes. Jude et le verset 11. Malheur à eux. Vous voyez, ça ne commence pas bien. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Trois histoires. Est-ce que vous connaissez les trois histoires? Caïn et Abel. Qui connaît Caïn et Abel cet après-midi? Voilà, la plupart. Qui connaît le Balaam? Peut-être un peu moins. Qui connaît Corée? Corée, il est moins connu, hein? Et malheureusement, je sais que cet après-midi, on n'aura pas le temps de tout voir. Parce que ça prendrait beaucoup de temps, on pourrait même faire un message sur chacun d'entre eux. Mais je voudrais qu'on voit au moins les deux premiers cet après-midi. Et voir surtout que ce sont des histoires qui remontent au début de la Bible. Caïn et Abel, c'était à quelle époque? C'était au moment de la Genèse. C'était les enfants d'Adam et Ève. Donc c'est vraiment les plus proches du début de la Bible. Et pourtant, Jude, c'est le frère de Jacques, et c'est le frère le demi-frère de Jésus, on va dire. Et pourtant, à leur époque encore, il y avait des personnes qui suivaient la même voie que Caïn. Il y avait des personnes qui suivaient les traces de Balaam. Il y avait des personnes qui se révoltaient comme Corée. Et vous savez, il y a 2 semaines, on était à la convention des pasteurs à Montluçon. Et c'était des moments particuliers. Le matin, on était dans les cultes tous ensemble. Je vous avais dit, on était, je crois, 560 pasteurs et femmes de pasteurs ensemble à louer le Seigneur. Et quand on chante le Seigneur tous ensemble, je vous dis qu'il y a quelque chose dans notre cœur. Hein, c'est impressionnant. Et il y a eu un moment, pour moi, qui m'a marqué le plus dans cette convention, de ce moment spirituel. C'est quand il y a eu un parler en langue, il y a eu une prophétie surtout qui a été donnée. Une prophétie qui disait, ces mots, je les ai notés, tout simplement, ça disait à quelqu'un, un pasteur, parle de la croix. Dans tes messages, parle de la croix. Ne parle pas d'autre chose, mais parle de la croix. Parce que pendant plusieurs temps, tu t'es éloigné de la croix. Pendant plusieurs temps, tu as parlé de beaucoup de choses, mais tu ne parlais plus de la croix. Alors le Seigneur te demande de parler de la croix. Et cette parole m'a interpellé. Même si je ne me suis pas senti visé directement, mais j'ai compris l'importance encore plus d'insister et de toujours insister et de toujours revenir à cette vérité que Jésus est mort à la croix et que dans la croix, il y a une puissance de vie. Dans l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais l'Évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. C'est la croix. Et déjà l'apôtre Paul, quand il écrit à d'autres chrétiens, il disait « Il y en a parmi nous qui marchent en ennemis de la croix ». Vous vous souvenez de sa parole? Ça fait peur cette parole aussi. Et on a l'impression, quand on parle des gens qui marchent en ennemis de la croix, on a l'impression que c'est les païens en dehors. Mais ce n'était pas ça. C'était des chrétiens, vous comprenez, entre guillemets, mais qui marchaient en ennemis de la croix. Et Jude s'est retrouvé confronté à des personnes qui vivaient dans cet état d'esprit. Et vous savez que dans le contexte de cette époque, c'était l'Église qui était naissante. Il y avait des personnes qui comprenaient très bien le sacrifice de Jésus, mais qui disaient que c'est très bien, c'est spirituel. À l'Église, on loue le Seigneur. À l'Église, on écoute la parole. Mais quand on rentre à la maison, eh bien maintenant, on revient dans le domaine matériel. Donc tout le reste, tout le spirituel, ça reste quand on se réunit ensemble. Et quand on est à la maison, par contre, on fait ce qu'on veut. C'était ça leur compréhension. Et ceux qui marchent en ennemi de la croix, c'est les personnes comme ça, qui choisissent de ne pas renoncer, qui choisissent de ne pas marcher dans cette sanctification, qui choisissent à l'église de chanter des cantiques et qui choisissent la semaine de faire ce qui les arrange. Ça, c'est marcher en ennemi de la croix. Vous comprenez? Et combien c'est subtil? Et je ne dis pas que cet après-midi que nous sommes tous dans ce cas-là, mais je répète, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Si nous sommes debout cet après-midi, que nous puissions nous inspirer de ces exemples pour apprendre à nous fortifier, à apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs, la même erreur par exemple que Caïn. Caïn, il est dit, ils ont suivi la voie de Caïn. Caïn, il a marché dans une voie, et quand on étudie l'histoire, donc on va venir dans la Genèse et le chapitre 4, on va se rendre compte que la voie de Caïn, c'est une voie glissante, c'est une voie qui va vers le bas, c'est une voie où c'est comme un tourbillon infernal qui nous conduit dans le péché, qui nous conduit dans l'égarement, qui nous conduit dans la perdition. Allons ensemble vérifier cette histoire. Genèse, alors c'est le chapitre 4. La voie de Caïn, c'est l'endroit, c'est là où il n'y a plus de compréhension de la croix. La voie de Caïn. Caïn, quand on étudie cette histoire, on se rend compte qu'il y a une progression négative. Et, au début, il y a eu quelque chose de bien. Regardez au verset 1er, Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est merveilleux. C'était la première naissance. Il y a eu la naissance d'Adam et Ève, mais c'était particulier leur naissance. Là, c'était la première vraie naissance dans la douleur. Alors, c'est quelque chose. Elle enfanta encore son frère Abel. Merveilleux, un frère qui vient au monde. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Est-ce que c'est bien qu'il y en ait un qui soit berger, l'autre laboureur? C'était bien, c'est des métiers qui se complètent. Et est-ce qu'on a besoin d'être complémentaires dans l'Église du Seigneur? Aussi. Dieu ne nous a pas fait, heureusement, tous pareils. Imaginez l'horreur si il n'y avait que des Michael. Non. Michael Fontaine, je précise, parce qu'il y a déjà un autre Michael. S'il n'y avait que des Michael Fontaine dans l'église, quelle horreur, hein? Heureusement que Dieu est riche dans sa diversité. Il y avait Abel qui était berger, Caïn qui était laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. On s'arrête là, juste. Est-ce que c'est bien, faire une offrande à l'Éternel? Désirer offrir quelque chose à Dieu. C'était pas la bonne, on va le voir. Mais le cœur y était. Mais c'était pas la bonne. C'est vrai, c'est bien de le préciser. Une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, et toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouverait ne le tuerait pas. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. Amen. Même si on doit dire les mêmes en avalant notre salive, hein, parce que ça finit avec quelqu'un qui s'éloigne de la face de l'Éternel. C'est ça la voie de Caïn. Quelqu'un qui a bien commencé. Un des premiers-nés, vous imaginez, un des premiers bébés de la terre. Imaginez la joie des parents qui découvraient. Alors eux, vraiment, ils découvraient ce que c'était être papa et maman. Et il y a eu toute une joie. Et je crois qu'ils ont essayé du mieux possible, même s'ils avaient connu ce moment de défaillance où le péché rentrait dans le monde, ils ont cédé à la tentation, ils ont essayé le mieux possible, avec l'aide de Dieu, d'éduquer leurs enfants, autant Caïn que Abel. Et ils leur ont inculqué certaines histoires. Ils leur ont inculqué le moment où ils se sont trompés, le moment où ils ont mangé le fruit défendu. Le moment où ils ont regardé plus ce qui attirait le regard que l'ordre de l'Éternel. Ils leur ont inculqué toutes ces choses. Ils leur ont inculqué aussi le fait que quand ils ont mangé ce fruit-là, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils se sont eux-mêmes pris des feuilles pour cacher leur nudité. Et quand l'Éternel est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Premier sacrifice. C'est Dieu qui fait le premier sacrifice. Il a offert, donc c'est dans le verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam, au chapitre 3, et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il a offert un sacrifice, il a fait couler du sang, surtout, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et Caïn, qui avait entendu cette leçon, je pense qu'il avait entendu beaucoup de fois dans son enfance, quand il a eu cette idée, cette bonne idée d'offrir quelque chose à Dieu, il a voulu offrir ce qui venait de lui-même, des fruits, des légumes. Il a voulu offrir le fruit de son travail à lui, ce qui montrait ses efforts, ce qui montrait sa force, ce qui montrait son courage, ce qui montrait sa persévérance, toutes ces choses. C'est ça qu'il a fait Caïn. Alors qu'Abel, il avait compris la leçon. Abel, il est dit qu'il fit un des premiers-nés de son troupeau. Parce qu'il avait compris que pour que Dieu puisse pardonner un péché, pour que Dieu puisse couvrir une faute, il fallait qu'il y ait du sang qui soit versé. Caïn, il n'avait pas compris cette histoire. Peut-être qu'il avait saisi à un moment donné, mais qu'il avait oublié. Et je disais que la voix de Caïn, c'est là où il n'y a plus la compréhension de la croix. Parce qu'au début, Caïn, il a cette confiance en lui-même. Caïn, il a confiance dans le travail de ses mains. Caïn, il se retrouve malgré tout sur une pente descendante. Parce que par la suite, il refuse d'entendre la correction. Quand Dieu... Il est dit qu'il porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur celle d'Adam, de Caïn. Il y a eu quelque chose dans son cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu vous dise non à quelque chose? Non, personne. C'est merveilleux, vous savez. Vous discernez la volonté de Dieu continuellement, que le Seigneur vous guide. Vous allez venir m'apprendre alors beaucoup de choses. Mais combien de fois ça nous arrive que Dieu nous dise « Arrête-toi, non, ne fais pas ça. Ce que tu fais, ça ne m'est pas agréable. Je ne peux pas être favorable dans cette direction. » C'est exactement ce qui s'est passé. Comment réagissons-nous quand Dieu nous dit non? Quand Dieu nous dit « Attends, arrête-toi, je ne suis pas favorable par rapport à ce chemin. » Comment réagissons-nous? Est-ce que nous réagissons comme Caïn qui fut très irrité et son visage fut abattu, tellement irrité que ça se voyait sur son visage? Est-ce que nous sommes comme ça? Ou est-ce que nous choisissons de faire confiance à l'Éternel? En tout cas, on voit cette progression. Au début, il a confiance en lui-même, il offre le sacrifice qu'il pense qu'il est bien, pas le sacrifice qu'il faut, le sacrifice qu'il pense qu'il est bien. Et puis après, il est face à la correction, il est abattu, il est triste. Et puis encore, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'Abel, il a offert un sacrifice, et dans les Hébreux, il est dit un sacrifice plus excellent, un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Et je crois que dans son cœur, il y a eu une jalousie qui a commencé à monter. Je crois que dans son cœur, il y a eu peut-être la convoitise face à la position de son frère par rapport à Dieu et sa position à lui que Dieu a dû reprendre. Je ne crois pas qu'il ait entendu une voix, je ne crois pas qu'il ait quelque chose de particulier qui se soit passé, sauf une conviction dans le cœur, une désapprobation intérieure. Et on connaît cette voix-là. Je n'ai pas besoin de vous expliquer longtemps, parce que même si on n'est pas au Seigneur, le Saint-Esprit est capable de parler au travers de notre conscience et de nous convaincre de certaines choses, de nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Maintenant, c'est à nous de prendre garde, c'est à nous d'avoir l'oreille attentive et d'accepter d'entendre la correction, de ne pas faire comme Caïn. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur le prévient en plus. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Sinon, le péché, il se tient à ta porte. Et l'image qui est donnée, quand il est question du péché, c'est comme une bête féroce qui était là tapie dans l'ombre et qui n'attend que le moment où la porte va s'ouvrir. Imaginez que, encore une fois, vous sortiez de l'église et qu'il y a un lion qui est tapis à l'entrée. Est-ce que vous allez ouvrir la porte en grand? Vous comprenez. Pourtant, Caïn, qui avait le conseil de Dieu, il a choisi d'ouvrir la porte au péché. Il avait l'idée de la jalousie, il avait l'idée du meurtre peut-être. Toutes ces choses, ces pensées, il les ruminait en lui-même, et il revenait continuellement en lui-même. Mais il a choisi de les laisser là. Et il a choisi d'ouvrir la porte et d'aller plus loin. Et vous savez que dans Jacques, il est dit que la convoitise, quand elle a enfanté, qu'elle conçoit quoi? Le péché. Et le péché a conduit Caïn à adresser la parole à son frère et à se jeter sur lui alors que personne ne le regardait et à le tuer dans les champs. Et puis après, encore plus loin, vous voyez cette dégringolade, parce qu'on commence à résister au conseil de Dieu, encore plus loin, Dieu vient le voir et lui dit « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn dit quoi? Mais je suis désolé, j'ai la colère qui m'a saisi et je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai tué. C'est pas ça qu'il dit. Je ne sais pas où il est. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Imaginez quelqu'un qui vient de tuer une autre personne et qui parle au Dieu qui connaît tout. Vous imaginez qu'une personne, Caïn, il a cédé à la colère, mais il a fui aussi les conséquences. Sa conscience est endommagée maintenant. Sa conscience endommagée parce qu'il ne se rend même plus compte de ce qu'il dit. Et encore, il va plus loin, il continue de faire les mauvais choix parce que quand Dieu lui donne une malédiction par rapport aux conséquences de ce qu'il a fait, tu as tué quelqu'un, tu vas être maudit. Le sol qui a recueilli le sang de ton frère, il sera maudit à cause de toi. C'est pas quelque chose de joyeux. Et il lui dit, tu seras errant et vagabond. Et Caïn, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui? « Je serai caché loin de ta face. » Là, il commence à réaliser un peu ce qui ne va pas. « Je serai errant et vagabond sur la terre. » Et regardez ce qui l'intéresse. « Quiconque me trouvera, me tuera. » Ce qui l'intéresse, c'est de garder la vie. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'être chassé loin de la face de l'Éternel. La preuve, c'est qu'il est, par la suite, c'est là où il est allé. Loin de Dieu, loin de l'approbation de Dieu, loin de la présence de Dieu. Mais il était intéressé par quoi? Par sa propre vie. Et ça me rappelle ce verset que Jésus a dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Caïn Il a voulu sauver sa vie. Et Dieu, qui est bon, qui est compatissant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une marque sur le front de Caïn et il a permis que tous les hommes qui allaient le croiser par la suite ne lui feraient pas de mal. Et vous savez que le mot marque, dans l'hébreu, c'est composé de 3 lettres. Alors, je ne suis pas du tout hébraïsant ou quoi que ce soit, hein, mais j'ai regardé rapidement. Il y a le Aleph, le Vav et le Tav. C'est comme si c'était le A, le V et le T, si vous préférez, en français. Je simplifie beaucoup, hein. Et ça veut dire la marque. Ça veut dire la marque. Et le Aleph, ça, vous savez que chaque lettre en hébreu a une signification. Le Aleph, ça veut dire le bœuf. Et le bœuf dans la Bible, c'est l'image du serviteur. Le Vav, ça veut dire le crochet ou le clou. Quelque chose qui relie 2 choses ensemble. Et le Tav, ça veut dire une marque, une croix. Et c'est, je crois que quand Dieu a mis la marque sur le front de Caïn, il lui donnait la solution pour revenir dans sa présence. Il lui parlait simplement du serviteur qui allait être cloué sur une croix. Vous voyez ? Il lui disait, et je crois, il n'y avait pas de miroir à l'époque, mais je crois que toutes les fois où il se regardait dans le miroir, il avait devant ses yeux la solution, revenir à la croix. Alors, bien sûr qu'il n'avait pas la révélation complète de Jésus qui allait venir sur la croix comme un homme, mais il avait la compréhension qu'il fallait un sacrifice, il fallait que quelqu'un paye pour nos erreurs. Et cet homme a choisi... Tous les jours de sa vie, alors qu'il voyait peut-être même la marque dans son reflet dans l'eau, il a choisi d'ignorer, il a choisi de rester dans ce lieu où il ne comprenait plus la croix. Et des fois, quand on vient à l'église de manière régulière et qu'on oublie de considérer la croix dans toute sa grandeur, on tombe dans la voie de Caïn, dans cette voie glissante qui nous conduit petit à petit vers le mal. Parce que si on étudie cette histoire, on se rend compte qu'à chaque étape, il avait le moyen d'arrêter. Mais il a choisi de continuer. Il a choisi d'aller plus loin. Et plutôt que d'aller dans l'endroit où on ne comprend plus la croix, il faut qu'on aille dans cet endroit, là où on la considère, la croix. Où on la fixe, où on se l'approprie véritablement. Ça me fait penser à cet homme. Vous savez, il y avait un homme qui était aux États-Unis. Il avait une vieille maison toute sa vie. Il a vécu dans la pauvreté. Il était arrivé à la fin de sa vie. Il était malade parce qu'il avait travaillé dans des métiers très difficiles. Il avait mal partout. Et un jour, il va à sa cave faire du rangement. Et il se rend compte qu'il a un coffre là qu'il n'avait jamais prêté garde. Que je ne sais pas, quelqu'un lui avait donné. Et il ouvre ce coffre et il voit des vieux papiers pleins de poussière. Et il est là, il regarde un peu plus, il ne sait pas trop ce que c'est, il ne comprend pas, et il va les montrer à un de ses amis. Et l'ami se rend compte que c'était des actions d'une société qui s'appelait International Business Machines Corporation, c'est-à-dire la société IBM. C'est une grande société informatique, quelque chose qui au niveau mondial, quelque chose d'énorme. Et les actions qu'il avait entre les mains, c'était celles qui avaient été données au tout début, et qui maintenant valait des milliards parce que l'entreprise avait progressé d'une façon incroyable. Et dans son coffre, lui qui vivait dans la pauvreté, dans la maladie, dans toutes sortes d'inconforts, il avait dans le coffre de sa maison, dans la cave, un trésor incroyable. Et pourtant, il n'en a pas profité. Il en a profité après. Mais pendant des années, il a vécu dans la pauvreté et dans la misère, alors qu'il avait un trésor sous les pieds. Et combien de personnes, combien de chrétiens sont dans cette situation-là, comme Caïn, il avait un trésor, lui, c'était le signe sur son visage. Il avait les exhortations de ses parents, qui étaient là comme des trésors, et il n'a pas tenu garde. Nous avons un trésor entre les mains, la Bible, et nous avons un trésor dans le cœur, cette compréhension que Jésus est mort à la croix pour nous. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous restons assis dans notre pauvreté, dans notre misère spirituelle, dans notre vie de défaite? Ou est-ce que nous choisissons de vivre dans la victoire que Jésus a remportée à la croix? Nous choisissons de vivre dans cette vie bénie, la vie que Jésus veut nous donner. Il faut que nous allions là où on considère la croix. Regardez les étapes très rapidement. Quand il avait confiance en lui-même, est-ce qu'il ne pouvait pas réfléchir un instant et dire « C'est bien ce que je fais, tout ce que je fais c'est merveilleux, mais qui c'est qui m'a donné la force pour travailler le sol? Qui c'est qui m'a donné les outils peut-être pour travailler le sol? Qui c'est qui a donné les semences? Est-ce que c'est pas Dieu? Est-ce qu'il n'aurait pas pu à ce moment-là déjà s'arrêter et dire « Toutes les œuvres que je fais c'est merveilleux, mais c'est Dieu qui est souverain sur tout. Alors je ne peux pas me glorifier de quoi que ce soit. » Et la seule chose que je peux lui offrir, c'est pour pardonner mon péché, il faut qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait un animal qui meure. Première chose, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus. Quand nous sommes consternés, irrités et abattus, par exemple un frère qui travaille avec nous dans l'église, qui fait le même service que nous, pas de chance, il est meilleur que nous. Peut-être qu'il est plus rapide, ou il joue mieux la guitare, ou il chante mieux, peu importe, il est meilleur que nous. Je prends n'importe quel exemple, hein, je ne cite personne. Vous comprenez, et on peut vite trouver quelqu'un qui est meilleur que nous. C'est très rapide à faire. Comment on réagit dans ces moments-là? Est-ce qu'on est irrité, triste, abattu? Le choix de la croix, c'est quoi? C'est Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien, je le lis pour vous, hein, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Vous voyez, ça c'est la façon dont le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre. Ayez en vous les sentiments qui y étaient en Jésus-Christ. Jésus, il a accepté de regarder les hommes plus importants que sa propre vie. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et quand on fait le choix de la croix, on choisit que même si la personne qui est à côté de nous, elle est meilleure que nous dans tel ou tel domaine, on choisit de toujours considérer ces personnes comme étant au-dessus de nous-mêmes. On choisit de l'encourager, on choisit de prier pour elle, on choisit de refuser quoi que ce soit qui est en nous de jalousie, d'irritation, de paroles mauvaises, de paroles méchantes ou de critiques. Toutes ces choses-là, on les refuse. On choisit la croix, on choisit le chemin que Christ a pris. Quand nous côtoyons le péché, quand le péché atteint notre porte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait devant la tentation? Que fait-on? On résiste comment? Est-ce qu'on ne sait pas quelque chose qu'on a lu tout à l'heure? Il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de nos forces. C'est le premier texte qu'on a pris. Aucune tentation qui est au-dessus de nos forces. Et si on accepte de revenir à la croix et de considérer que Jésus, à la croix, il est mort pour nous et que Jésus, il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc la tentation dans laquelle on est confronté en ce moment, eh bien, le Seigneur, il a été confronté aussi. Et à la croix, il a remporté la victoire sur cette tentation. Donc si on revient à la croix, forcément, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous donne la possibilité de résister, de tenir ferme face à l'ennemi. Et quand on résiste à l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Il s'enfuit loin de nous, que son nom soit béni. Quand on cède à la colère, est-ce que ça nous arrive des fois de nous mettre en colère? Ça nous est arrivé peut-être moins aujourd'hui, heureusement. Mais quand ça nous arrive, est-ce qu'on a cette capacité de dire « je vous demande pardon ». Hier, on avait un jeune qui a donné ce témoignage. Qui s'est rendu compte qu'il s'était mis en colère face à certains comportements. Au lieu d'agir avec autorité quand même, reprendre mais avec douceur, il s'était mis en colère. Et Dieu lui a mis à cœur de demander pardon. Pourtant, c'était des personnes qui étaient en dessous de lui, à un point de vue autorité. Mais il a choisi de demander pardon. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas ça, comme ça qu'on est béni dans la présence de Dieu? Alors que nous puissions, quand on est face à la colère, ben, si on a cédé à la colère, qu'on puisse demander pardon. Si on est là, tenté par la colère, qu'on puisse renoncer à la colère, comme l'apôtre Paul nous le dit. Quand on est face aux conséquences de nos fautes, on a péché, on a fait le mal. Est-ce que Caïn, au moment donné où il avait tué son frère, il n'était pas capable de revenir devant le Seigneur et de dire « Seigneur, je te demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je veux que tu me pardonnes parce que je sais que j'ai fait quelque chose de mal. » Il aurait pu le faire. À chaque étape, il aurait pu demander pardon. Pourtant, il ne l'a pas fait. Quand on se retrouve dans une situation où on a fait le mal, laissons Dieu parler à notre conscience, ouvrons notre cœur, ouvrons nos oreilles spirituelles et laissons le Seigneur parler à notre cœur et nous montrer ce qui ne va pas, nous montrer là où les souillures qui sont dans notre cœur et laissons-le parler à notre cœur et nous dire « Je veux enlever les souillures de ton cœur, je veux te laver d'une eau pure, je veux mettre en toi un cœur nouveau, je veux enlever ces souillures-là et t'enlever les idoles que tu as dans le cœur. Ne continuons pas à faire les mauvais choix comme Caïn les a fait. Il a persisté. Il n'était pas préoccupé par perdre la présence de Dieu, il était préoccupé par perdre sa vie. Préoccupons-nous de Dieu, en tout premier. Préoccupons-nous de la présence de Dieu. Et ce verset nous rappelle l'endroit où il faut être. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. C'est à cet endroit qu'il ira te chercher. Et je crois que Caïn, s'il avait eu le cœur ouvert, au dernier moment même, quand Dieu était prêt à le maudire, s'il s'était repenti à ce moment-là, c'est là que l'Éternel aurait été le chercher. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas considéré la croix dans toute sa splendeur. Quel que soit le péché dans lequel nous sommes tombés ou retombés, quelle que soit la profondeur du trou dans lequel on se trouve, quelle que soit la noirceur des ténèbres, quelle que soit la force du vent, si nous considérons la croix, c'est là que l'Éternel va venir nous chercher. C'est là. Il n'y a pas un péché trop grand au monde dans lequel le Seigneur ne peut pas nous délivrer. Il n'y a pas de situation trop compliquée dans laquelle le Seigneur ne peut pas intervenir et changer la situation. Mais ça passe par quelqu'un qui considère la croix, qui considère qu'il est fautif et que Dieu a dû envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Là où il y a la compréhension de la croix. Deuxième chose, et je vais aller très vite pour ne pas prendre trop de temps, on continuera une autre fois s'il faut. C'est dans Nombre, chapitre 22. Vous savez qu'il y avait la voix de Caïn, l'égarement de Balaam. Mais l'égarement de Balaam, ça nous parle de là où il n'y a plus de crainte de Dieu. Caïn, ça nous parle de là où il n'y a plus la compréhension de la croix. Balaam, ça nous parle de quelqu'un qui perd la crainte de Dieu et qui la perd progressivement. On se rend compte, et le message de ce matin pour ceux qui étaient là nous confirme que c'est la parole de Dieu, qu'on peut marcher dans la crainte, faire certaines choses qui augmentent notre crainte ou faire d'autres choses qui diminuent en nous la crainte, qui nous font perdre même la crainte de Dieu. Nombre 22, verset 1er. Je vous invite à lire toute l'histoire à la maison. On va lire quelques versets. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Verset 5, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Béthor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je battre et le chasserai-je du pays. » Verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Amen. Est-ce que ça commence bien cette histoire? Quelqu'un qui a une communion avec Dieu. C'est ça qu'on voit dans ces moments-là. Et c'est question d'un devin, mais ce n'est pas le mot d'aujourd'hui, hein, devin. C'est quelqu'un qui avait une communion avec Dieu. Quelqu'un qui avait un peu comme un prophète. Et cette personne, en communion avec Dieu, est capable d'entendre Dieu lui parler. Et Dieu, qui voit certaines situations qui se passent dans sa maison, un certain danger qui arrive, il vient lui parler et lui dire, mais c'est qui les personnes qui sont là? Qu'est-ce qu'elles veulent? Ils veulent qu'on maudisse ton peuple. Ah non, mais ce que moi j'ai béni, personne ne peut le maudire. Est-ce que vous savez déjà? C'est important de savoir qu'on ne craint pas la malédiction. Il y a des personnes, que je me souviens en Afrique en particulier, des personnes qu'on avait maudites, fait des sortilèges, et qui, parce qu'ils étaient au Seigneur, n'avaient subi aucun mal. Et c'était au contraire les personnes qui avaient fait les sortilèges qui avaient retiré le mal des malédictions. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, personne ne peut le maudire. Et ça, c'est une assurance. Mais encore faut-il être passé, je reviens à ça, par la croix, et à savoir que nous sommes les enfants de Dieu, protégés, et son peuple, savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Et Balaam est dans cette situation où il est en communion avec Dieu. Il est en communion, et c'est merveilleux. Et je ne sais pas si on l'a lu, c'était au verset 6, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que toi. » Et regardez à la fin, « Je sais que celui que tu bénis est béni. » Il était tellement en communion avec Dieu que même les étrangers étaient capables de dire à Balaam, « Je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Si c'était vrai, ça veut dire que ce qu'il disait, c'était la parole de Dieu, tout simplement. Parce que Balaam, en lui-même, il n'avait pas de pouvoir. C'est parce qu'il avait une communion. Mais regardez la suite au verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Comme ça, ça allait lui faire quelque chose. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas donc de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Amen. Ce n'est pas une parole de foi, ça ? Oui, mais regardez la suite. « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Pourtant, l'Éternel, est-ce qu'il ne lui a pas parlé déjà ? Et quand dans sa déclaration, même s'il remplissait sa maison d'or et qu'il me l'a donnée, ça ne changerait rien du tout. Mais par contre, venez, restez, peut-être qu'il va changer d'avis. Vous voyez l'état d'esprit ? Un homme qui est en communion avec Dieu et qui rentre dans le compromis, qui accepte quelque chose que Dieu avait déjà refusé. Il a dit qu'ils sont ses gens, mais non, n'accepte pas ce marché-là. Et regardez la suite. Maintenant, je vous prie, donc c'était au verset 20, la suite. « Dieu vint à Balaam pendant la nuit » et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, et sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. Et regardez ce qui se passe. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Pour quoi faire ? Pour lui résister. Pourtant, est-ce que ce n'est pas Dieu qui vient de lui dire de partir avec ? Ben oui, mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Puisqu'il lui avait déjà donné une parole claire, précise, nette, ne va pas avec eux, et que lui, il a dit, mais venez à la maison, on ne sait jamais si Dieu il veut changer d'avis. Et quand Dieu a vu cet état de cœur, il a laissé continuer pour le mettre à l'épreuve, mais ce qui s'est passé, il est rentré dans une progression, dans un moment où Dieu était obligé de résister à cet homme. Alors qu'il était en parfaite communion juste avant, il se retrouve à un endroit où il combat avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre vie où on a l'impression que tout va mal et que les choses nous résistent parce qu'en fait, on s'est entêté dans notre pensée à nous, dans notre révélation en nous, quand notre façon de comprendre la Bible. On lit tel verset, mais on se garde de lire tel autre verset qui vient rééquilibrer la chose. Et on s'entête dans notre situation. Et qu'est-ce qui se passe pour ce frère ? Alors, c'est au verset. Alors, je suis perdu dans mes notes. J'ai oublié de vous dire ça. Verset 19, il leur a dit, restez là pour la nuit. Il a accepté, donc, le compromis dans son cœur. Et regardez la différence avec Exode, chapitre 24. On reviendra après à Balak et à Balaam. Exode, donc c'est juste avant, chapitre 24, et le verset 12. Un autre homme de Dieu, mais celui-là, il a bien fini. Exode 24, verset 12, c'est Moïse, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne. Amen. Monte sur la montagne, monte vers moi, et reste là, sur la montagne. Voyez la différence avec Balaam. Balaam, il a dit à ceux qui étaient méchants, restez. À ceux qui avaient de mauvaises intentions, restez. Ceux qui allaient le perdre, restez là. Dieu a dit à Moïse, toi, monte sur la montagne et reste là, sur la montagne. Toi, tu marches dans la communion, reste là dans la communion avec Dieu. Reste là dans la présence de Dieu, où tu vas pouvoir entendre sa parole, où tu vas pouvoir écouter son conseil, où tu vas pouvoir être attentif aux commandements du Seigneur. Mais reste là sur la montagne. Combien nous avons besoin de ne pas rester là dans le compromis, mais plutôt rester là dans la présence de Dieu. Voyez la différence ? Et ce qui a perdu Balaam, on pourrait lire toute l'histoire, je vais m'arrêter là plutôt. Mais si on voit comment Balaam il a fini, on se rend compte que le peuple d'Israël alors qu'ils étaient en train de conquérir le pays, à un moment donné, ils ont tué Balaam. Parce que, quand on regarde la suite, on se rend compte qu'il a commencé à dire des prophéties, il était incapable de maudire ce peuple, parce que Dieu voulait qu'il le bénisse, mais il a choisi de corrompre le peuple d'Israël, de permettre que les femmes de Moab, elles aillent tenter le peuple d'Israël. Et les gens sont tombés dans la tentation, il y a eu même une épreuve qui est venue de la part du Seigneur dans cette situation-là. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui avait une communion avec Dieu a choisi la voie de l'égarement. Il a choisi de ne plus avoir la crainte de Dieu. Il a fait toutes sortes de choix, et on les a vus. Il a accepté le compromis, il a accepté que son entendement soit corrompu, parce que si on lit la suite, juste après, il y a même son Hadès était capable de voir l'ange, et lui, il était incapable de le voir. Vous vous souvenez de cette histoire? Et on se demande dans l'affaire qui était le plus âne des deux. Parce que l'âne, elle était capable de... Elle discernait qu'il y avait un ange du Seigneur qui était en train de résister, qui voulait arrêter Balaam dans sa folie, et lui, il était incapable de le discerner. Et des fois, quand on est tombé dans le péché, et qu'on s'entête, qu'on résiste à Dieu, qu'on rentre dans ce combat-là, on a cet égarement qui prend place. On a cet aveuglement qui prend place. Il y a un esprit d'assoupissement qui prend place, et on se rend plus compte des choses qui nous entourent de manière spirituelle. Ah, bien sûr qu'autour de nous, on va bien cerner les situations, mais spirituellement, il va y avoir un aveuglement. Que nous puissions cet après-midi tirer les bonnes leçons de ces histoires et réaliser que oui, on a besoin de considérer la croix à sa juste valeur tous les jours de notre vie. Je me souviens de ces moments que je passais avec des amis quand on était étudiant, où on cherchait la face de Dieu, et continuellement on commençait ces moments en repensant à la croix, en repensant à l'œuvre de Jésus. À chaque fois, on imaginait à nouveau cette histoire que Jésus était mort pour nous, et combien c'était bon, combien c'était incroyable de vivre ces moments-là, et combien c'était bon aussi de réaliser que dans la communion fraternelle, il y avait des choses qui pouvaient se passer, on priait les uns pour les autres, on voyait qu'on progressait les uns après les autres, en céder mutuellement, etc. Mais quand on choisit de s'entêter, on choisit de marcher dans le compromis, on choisit de ne plus considérer la croix, ne plus voir les autres comme au-dessus de nous-mêmes, c'est la voie de la perdition. Cet après-midi, le Seigneur nous dit, voilà, devant vous, il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Mais choisissez la vie, afin que vous viviez. Choisissez cette voie merveilleuse que je vais vous donner. Vous allez être capable de demander pardon. Vous allez être capable de ne plus vous mettre en colère. Vous allez être capable d'être plein de douceur. Vous allez être capable de voir les autres au-dessus de vous-même. Toutes ces choses vont être possibles si vous acceptez de marcher dans ma présence. Alors qu'on puisse maintenant, dans ce moment, mais simplement se recueillir et laisser le Seigneur parler à notre cœur. Merci Éternel, parce que nous voyons dans ces exemples toutes ces choses auxquelles nous devons prendre garde. Merci pour ces exemples, même s'ils sont fâcheux, même s'ils sont difficiles à lire, qui nous parlent tellement, Seigneur, qui nous confrontent avec nos faiblesses à nous, Seigneur. Et combien nous te demandons que tu puisses nous donner la force de ne pas tomber, Seigneur. Que tu puisses nous donner la force de résister à la tentation. Tu puisses nous donner la force de ne pas côtoyer le péché, Seigneur. De ne pas laisser des pensées mauvaises en nous, mais qu'au contraire nous puissions continuellement considérer la croix, considérer cette œuvre puissante, cette œuvre de victoire que tu as faite, Seigneur. Merci de nous aider aussi à toujours garder en nous, dans nos cœurs, la crainte de ton nom, la crainte de l'Éternel en nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire, afin que nous puissions, Seigneur, ne pas nous égarer, mais qu'au contraire, nous ayons la sagesse divine qui coule dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Merci, parce que je crois que dans ces moments, tu considères les personnes qui sont dans ce lieu et tu regardes à chacun des cœurs et tu veux te rappeler cette parole que quel que soit le péché dans lequel on a pu tomber, quel que soit la noirceur de nos ténèbres dans lequel nous sommes, tu vas nous chercher là si nous nous repentons, si nous cherchons ta face, si nous considérons la croix, Seigneur. Merci pour ces promesses. Merci parce que nous croyons que dans ces moments, tu nous visites par ton Saint-Esprit, Seigneur, et tu nous donnes les armes pour pouvoir affronter jour après jour l'adversaire de nos âmes et affronter ce monde aussi dans lequel tu nous as placés. Oui, nous ne voulons pas combattre la chair et le sang, mais nous voulons combattre le bon combat de la foi. Merci de nous aider à avoir cet esprit de prière, à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Merci de nous aider, Seigneur, à marcher dans tes voies et que ton nom soit béni. Amen.